Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions, bien sûr. Le podcast des maternelles. Déjà, tiens, notez une chose. Si vous l'écoutez, ce podcast, le jour de la mise en ligne, c'est-à-dire vendredi, ce vendredi, vendredi 7 janvier, sachez que demain, samedi 8 janvier, il y aura un épisode exclusif, comme on dit, un épisode inédit, jamais diffusé. Le thème, ce sera la santé mentale, la santé psychologique de nos enfants depuis 2 ans. En gros, les conséquences psychologiques de la crise sanitaire, des différents protocoles, de tout ce qu'on vit en ce moment sur nos enfants. Un épisode que j'ai déjà enregistré, à ne pas manquer, je vous le dis, ça donne d'excellents conseils pour les parents que nous sommes dans la période que nous vivons aujourd'hui, que vous ayez des enfants tout petits, moyens, grands, adolescents, etc. Et aujourd'hui, ce matin, dans l'émission, on a parlé d'un sujet qui est important et qui touche, bien sûr, pas mal d'adolescents dans notre pays, les addictions, en particulier aux jeux vidéo. Vous allez entendre dans un premier temps avec Agathe Le Caron, Pauline qui nous raconte être passée par là, avoir été dans une véritable addiction. Puis nous serons avec le psychologue spécialiste du sujet, Olivier Duris, qui nous donnera ses bons conseils. C'est parti.
Alors si vous trouvez que vos enfants ou vos petits-enfants passent un petit peu trop de temps sur leur console, bah, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, ça je vous le dis tout de suite. Bonjour Pauline. Pauline, vous en êtes sortie, hein, je le dis. Vous avez 22 ans, vous êtes fille unique, vous étiez une enfant assez solitaire, je connais, qui passait beaucoup de temps à lire dans sa chambre. Donc vous aviez un petit monde intérieur, quoi, on va dire. Vers 11 ans, vous avez développé une véritable passion pour les mangas, pour le Japon d'ailleurs en général. Et puis à vos 13 ans, tout a basculé parce que vous êtes devenue accro à un jeu en ligne, de l'univers manga d'ailleurs, hein, ce qui est logique, ça correspondait à votre passion. Et vous y jouiez jusqu'à 20 heures sur 24. Ça, c'est un truc de dingue, surtout à 13 ans. Ne dormir que 4 heures, ça paraît totalement fou. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé, cette escalade, et puis surtout comment vous êtes sortie de cette spirale. Qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans? Vous avez vécu un événement traumatisant qui pourrait être l'élément déclencheur.
C'est ça, ça a vraiment été l'élément déclencheur. En fait, le 19 juin 2013, donc j'avais pratiquement 13 ans, une tornade a détruit en fait ma maison et d'autres maisons des villages alentours. Ce qui fait qu'avec mes parents, on a dû déménager dans la ville voisine.
Donc, alors qu'on comprenne bien, la tornade, c'était un événement traumatisant. Déjà, la maison était détruite. En plus, vous étiez au sous-sol.
Voilà,
on a eu très peur. Ouais. Et vos parents qui faisaient un peu semblant d'aller bien, mais voilà, qui flippaient aussi.
Voilà, ça a vraiment été traumatisant pour tout le monde. Et en fait, je suis passée donc, d'un petit village avec une très très mauvaise connexion Internet à une ville où là ça passait très très bien, donc d'un côté j'étais quand même contente d'avoir internet.
Oui, ça je vous comprends. Alors suite à cet événement, vous avez déménagé dans une ville voisine, l'assurance vous permet d'avoir un ordinateur neuf et là vous découvrez internet et vous découvrez le jeu vidéo Elsword. J'ai bien prononcé?
Oui, oui, c'est ça.
Alors vous faites rapidement des rencontres, on l'a dit, vous étiez une jeune fille assez solitaire et là grâce à ce jeu vous faites des rencontres.
C'est ça. En fait, dans un jeu comme celui-ci, qui est un MMORPG, en fait...
Ça veut dire quoi, MMORPG?
Alors, c'est Massivement Multijoueur MMO, Online Role-Playing Game.
Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs...
Il y a plusieurs personnes qui jouent. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Donc, pour avancer, faire évoluer son personnage, c'est mieux quand on est à plusieurs. Sinon, c'est un petit peu compliqué si on est tout seul. Et Role-Playing Game, c'est vraiment le côté où on va incarner un personnage qu'on va pouvoir personnaliser et auquel on va vraiment s'identifier tout au long du jeu, en fait.
D'accord.
Et donc, effectivement, dans ce type de jeu, les MMORPG, il y a ce qu'on appelle des guildes. C'est un petit peu comme une petite famille. C'est un regroupement de personnes. Et j'ai créé ma propre guilde avec un ami. Et on correspondait vraiment à une famille. Donc, cet ami et moi, on était le papa et la maman. Et on avait donc un petit peu nos enfants. On avait des frères, des sœurs, des tantes. Il y avait vraiment cette image-là de la famille qui était très importante pour nous.
D'accord. Et donc finalement, ces amitiés-là prenaient le pas sur vos amitiés de collégienne?
Complètement. Voilà, je me suis coupée un petit peu malheureusement de mes amis du collège, puisque bah, ils et elles n'étaient pas dans ce monde de manga, tout ça. Et bah, maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que je m'étais complètement éloignée de ma meilleure amie à ce moment-là, parce que j'étais uniquement dans ce monde-là qui me correspondait, dans mon univers, en fait.
Et vous n'étiez pas très heureuse au collège?
Non, J'étais pas très heureuse parce que déjà, j'aimais pas l'école. Il y a eu le traumatisme de la tornade. Donc, avec mes parents, il y avait un petit peu de tension dans le sens où ils étaient stressés. Il y avait beaucoup de papiers à faire, l'assurance, contacter les artisans. Ça a été vraiment un gros stress pour tout le monde. Et j'avais pas beaucoup d'amis non plus. J'étais pas une fille très populaire à cette époque-là. Ce qui fait que je me suis vraiment réfugiée dans un monde virtuel à travers Elsword.
Alors, pendant votre année de troisième, vous devenez vite accro. Comment ça se manifestait dans vos journées? Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type?
Alors, c'est vraiment en troisième que ça a commencé à devenir de plus en plus. Donc, je me levais le matin très, très tôt, en fait, vers 4-5 heures du matin.
Pour jouer?
Pour jouer, parce qu'en fait, j'avais des amis de La Réunion. Et du coup, je jouais avec eux, puisque chez eux, c'était la journée, en fait. Donc, je jouais de à peu près 4 heures jusqu'à 7 heures avec eux. Ensuite, j'allais au collège et en fait, j'étais très maligne puisque je faisais tous mes devoirs et j'écoutais vraiment en cours toute la journée à l'école pour pouvoir rentrer chez moi et être complètement débarrassée de tout ce qui est les devoirs, l'école, pour pouvoir me consacrer à 100% au jeu de 17h jusqu'à à peu près 23h minuit. Ce qui fait que je dormais très très peu puisque je me mettais un réveil au niveau de la matinée pour pouvoir jouer avec les amis de La Réunion.
Mais vos professeurs, par exemple, ils n'ont rien remarqué parce que vous deviez être très fatiguée à l'école.
Alors, au bout d'un moment, effectivement, je commençais à avoir beaucoup de cernes. On voyait même les vaisseaux sanguins se dilater. J'avais les yeux très, très rouges. Et je commençais même à piquer du nez, surtout en cours de maths. J'avais un professeur... Déjà, je n'aimais pas les maths. Et mon professeur de maths avait une voix qui m'endormait un peu. Ce qui fait que vraiment, je piquais du nez en cours de maths. Et il en a parlé forcément à mes parents. Et en fait, mes parents pensaient que je révisais tellement que j'en étais épuisée, alors que c'était mais pas du tout ça.
Et oui, vos parents, en fait, ils étaient tellement préoccupés par leurs problèmes, ce qu'on peut comprendre, que forcément, ils ont rien remarqué.
Ils n'ont rien remarqué, ils travaillaient. Et en plus, j'étais très maligne, puisqu'en fait, pour accéder à ma chambre, il y avait un escalier en bois qui grinçait. Et dès que j'entendais quelqu'un monter... Je fermais l'ordinateur et je faisais croire que je révisais ou que je lisais un livre. Donc, ils se sont
jamais doutés. Vilaine. Alors, ça s'est empiré. Après, vous aviez carrément la musique du jeu en permanence dans la tête. Et le climax, ça a été l'été, en fait, qui a suivi votre troisième. Ça s'est encore accéléré, là.
En fait, pendant l'été, il n'y avait plus le rythme scolaire. Ce qui fait que je jouais pratiquement toute la nuit. Je me rattrapais légèrement sur le matin. Donc, du coup, je me levais très tard, vers 11h midi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait atteint pratiquement 20h sur 24. Donc, toute la nuit, je jouais. Et c'est allé très, 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 très loin, dans le sens où je ne voyais plus d'intérêt à m'alimenter. Donc, j'ai perdu du poids. Je prenais un bout de pain dans la cuisine et puis je remontais et puis je mangeais mon bout de pain pendant que je jouais.
Au niveau du sommeil, ça a eu un impact sur tous les domaines.
Sur tous les domaines. Au niveau de l'hygiène aussi, c'est allé très, très loin. Je me suis déjà vue faire semblant d'allumer la douche pour faire croire que je me douchais, alors qu'en fait, c'était juste pour faire croire, en fait, pour pouvoir vite retourner jouer. Et même, il y a des fois, je me retenais d'aller aux toilettes. J'en avais mal au ventre, mais je voulais tellement pas quitter le jeu que je me retenais à avoir mal au ventre.
Et votre famille, entre guillemets, les personnes avec qui vous jouiez en réseau, ils étaient comme vous?
Oui. La plupart des jeunes étaient souvent, pas tous, mais très souvent, des jeunes en souffrance qui cherchaient une échappatoire, en fait. Donc, il venait sur le jeu vraiment un petit peu comme moi pour se libérer du monde réel et jouer le plus possible pour pouvoir retrouver la famille de la guilde.
Donc là, on l'a vu pendant l'été, ça a été dramatique. Vous jouiez donc jusqu'à 20h sur 24. Ça paraît hallucinant, quitte à ne pas vous alimenter, quitte à ne pas vous laver. Toujours avec des parents que vous endormez magnifiquement. Deux semaines avant la fin des vacances, vous avez un voyage qui est prévu avec votre maman en Corse. Alors, a priori, sur le papier, pour tout le monde, on se dit c'est formidable. Vous, j'imagine que les derniers jours avant le départ, ça devait être un petit peu perturbant. Parce que comment est-ce que vous pouvez jouer si vous partez en Corse avec votre maman?
J'ai été très angoissée par ce voyage. J'avais aucune envie d'y aller. Je ne réalisais pas du tout la chance que j'avais de partir en Corse. Et un jour, ma mère est venue me voir et m'a dit « Il va falloir que tu commences à préparer tes affaires. Par contre, je ne veux pas que tu emmènes ton ordinateur. Tu passes beaucoup de temps dessus. Donc, tu n'emmèneras pas ton ordinateur. » Et à ce moment-là, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vraiment pété un câble. Je lui ai hurlé dessus. Je me suis mise dans un état de colère, de rage. Et je lui ai dit « Non, tu peux pas m'empêcher d'emmener mon ordinateur. J'en ai besoin, tu te rends pas compte. » J'étais dans un état vraiment de rage extrême.
Mais en fait, c'est une cure de désintoxication forcée hein, qui vous attendait là-bas. Comment ça s'est passé les premiers jours, justement ?
Alors, le voyage s'est bien passé. On a pris le ferry et on a vu des dauphins. Donc ça, c'était vraiment magnifique. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, par contre, je me suis mise à aller très très mal, que ce soit autant psychologique que physique. J'avais vraiment une sensation d'oppression au niveau du cœur, du plexus. Je me sentais très très mal, presque comme une douleur en fait, au niveau du corps.
La nuit aussi, hein, c'était terrible.
La nuit aussi. Psychologiquement, ça allait pas du tout. J'avais envie de rien. J'avais juste envie de rester toute seule dans ma chambre.
Un vrai syndrome de manque, hein ?
Un vrai syndrome de manque, tout à fait. Alors, j'avais un petit peu prévu le coup. J'avais téléchargé les musiques du jeu pour pouvoir les écouter quand même, pour pouvoir un peu avoir l'impression d'être dans le jeu. Et j'avais exceptionnellement pris le numéro de téléphone d'une personne, donc celui qu'on considérait comme le papa de la guilde, pour pouvoir avoir des nouvelles tous les jours de ma guilde.
Et après, alors, il y a eu donc ces quelques jours comme ça de syndrome de manque véritable. Hein. Et après, vous avez recommencé à reprendre goût à la vie. Comment ça s'est passé, cette transition ?
Au bout à peu près du cinquième jour, j'ai commencé petit à petit à m'ouvrir. Et en fait, le sevrage était fini. Donc, je n'avais plus cette sensation de mal-être, d'oppression. Et j'ai commencé à aller au club ado. Donc, là où on était, il y avait un club ado. Et là, j'ai fait des activités vraiment super. On a fait de la plongée, on a vu les fonds sous-marins. C'était magnifique. On a fait du théâtre, moi qui adore ça. On a fait du sport, on a fait plein d'activités.
Et vous avez créé de vrais liens aussi.
Voilà, je me suis fait des amis très très rapidement en fait, alors que je ne pensais pas. Et c'était vraiment super.
Grâce à ça, vous avez pu commencer à parler un petit peu de cette addiction aux jeux vidéo à votre maman. Vous en êtes sortie. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette addiction extrême, hein, terrible, comme une drogue, vraiment.
Exactement. Oui.
Parce que quand on voit que la nuit, vous faisiez des cauchemars, des terreurs nocturnes et tout.
Des terreurs nocturnes, oui, fou. Tout à fait. Oui. Et il y a même une petite anecdote. Quand j'étais en Corse, on dormait dans la même chambre avec ma mère et je me levais pour l'aborder parce que j'étais encore dans ce rôle de la maman. Mmh. Et la deuxième anecdote, c'est qu'une fois, elle s'est réveillée et elle m'a retrouvée en boule dans ma valise parce que j'avais tellement envie de rentrer chez moi que c'était révélateur, je voulais qu'on me ramène chez moi.
Bonjour Olivier Duris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychologie et psychologue clinicien à l'hôpital de jour André Bouloche à Paris. Et vous êtes également membre de l'association 36912 qui vise à mieux éduquer le public aux usages numériques. Et c'est ça en fait, je crois, le mot-clé, hein, c'est éduquer. Alors, ce qui est fou dans ce témoignage, c'est qu'on voit que les parents de Pauline, et ils ne sont pas les seuls, ils n'ont rien vu. Est-ce que vous pouvez nous parler des signes qui peuvent alerter et qui doivent un peu nous mettre la puce à l'oreille ?
En fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre une chose, hein, c'est qu'ici, on ne va pas vraiment parler d'addiction aux jeux vidéo. C'est un terme qui est en débat, mais on peut parler en fait, de pratiques pathologiques du jeu. Et en fait, là, ce qu'on voit dans ce témoignage, en fait, c'est que cette jeune fille, elle a vécu un événement traumatique quand même très important. Ce n'est pas rien de perdre toute sa maison, ses murs qui s'écroulent et tout ça. Et d'avoir des parents aussi qui sont eux-mêmes très préoccupés et donc qui n'ont pas non plus beaucoup d'espace pour pouvoir s'occuper aussi de leur fille. Et du coup, en fait, on va trouver là l'utilisation du jeu comme une sorte de refuge en fait, pour fuir une problématique qui est compliquée. Et on se retrouve en fait face à des signes qu'on peut trouver par exemple dans la dépression à l'adolescence. Et c'est pas facile pour des parents de remarquer ça parce que les jeunes peuvent trouver des moyens de cacher ça. Donc comme on l'a entendu, allumer la douche ou faire des choses comme ça. Et du coup, en fait, généralement, on va chercher des premiers signes qui, par exemple, vont être soit chute des résultats scolaires, soit coupure des liens avec les amis ou avec la famille. Enfin, tous ces petits détails qui font qu'on se dit qu'il y a un changement dans le comportement. Et dans ce genre de problématique, en fait, il faut quand même aller consulter un professionnel, donc psychologue, psychiatre.
Faut pas traîner, j'imagine.
Alors, ce n'est pas évident de le repérer, on dit là, pour les parents. Ce n'est pas évident aussi à gérer pour l'ensemble de la famille, la fratrie. C'est le sens de la question d'Emmanuel qui nous a envoyé une question en vidéo pour vous.
Bonjour la maison des maternelles. Moi, ma question était de savoir, lorsqu'il y a une addiction aux jeux vidéo, donc avec une grande consommation de jeux vidéo, et notamment de jeux vidéo où il y a de la violence, est-ce que cela pouvait expliquer des comportements violents au sein d'une fratrie ou au sein de la famille ? Et si oui, comment aborder les choses ? Merci beaucoup.
Je peux répondre?
Oh, bah, bien sûr, on est pendu à vos lèvres.
En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Hein, les études, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent de lien en fait, entre violence et jeux vidéo. Donc, contrairement à ce que certains vont dire, ce n'est pas le fait de jouer à des jeux violents qui vont rendre violents. Par contre,
ce qu'on entend de moins en moins, j'ai l'impression. Quand
ce
même.
Qu'on entend de moins en moins. Et encore, on a eu cette histoire d'un sénateur américain, je crois, qui avait voulu interdire certains jeux vidéo parce qu'il disait qu'il y avait une montée de la violence ou autre. Mais c'est vrai. Et puis après, avant, on parlait déjà des jeux de rôle par rapport à ça. Ouais. Avant, on parlait de la bande dessinée. Enfin, il y a plein de cultures qui ont été prises et attaquées là-dessus. Par contre, ce qu'on remarque quand même, c'est que le jeu vidéo peut avoir un côté très excitant. Pas tous, mais quand même ceux qui vont avoir un côté soit stressant, soit un côté compétitif aussi, comme n'importe quelle pratique compétitive en même temps. Et forcément, vu qu'on va beaucoup moins dépenser en fait, toute son énergie que dans une pratique sportive, par exemple, bah, imaginez un petit peu, quand vous avez une pratique très excitante, et ben, ça boue un petit peu en vous. Et du coup, bah, une fois que le jeu s'arrête, et ben, vous allez vous retrouver en fait, très excité. Et ça peut se retrouver chez certains jeunes, par exemple, un comportement un peu plus agressif, par exemple. Donc on n'est pas sur de la violence, on est plus sur une sorte d'agressivité liée à cette excitation. Et généralement, en fait, ce qu'il va falloir, c'est laisser un peu redescendre les choses. C'est pour ça qu'on propose souvent aux jeunes des activités un peu calmes, où on peut se reposer un petit peu, travailler avec eux des fois, sinon la frustration ou des choses comme ça. Mais bien comprendre qu'il y a une différence entre être violent suite à des jeux vidéo ou avoir un comportement agressif type rageux, comme disent les joueurs, et qui là est totalement autre chose.
Mais pour répondre à la question, c'est pas parce qu'on joue à Fortnite qu'on sera plus énervé que si on joue à FIFA, un jeu de foot.
C'est ça. Enfin, ça dépend de notre rapport en fait au côté excitant, au côté compétitif et tout ça en fait.
D'accord.
Mais je pense que si on joue à Animal Crossing par exemple, on est plus
détente.
C'est un jeu plus détente en effet. Ouais.
Pendant le Covid, c'est vrai que ça a bien marché, ça détendait les gens un peu anxieux. Laure, vous dites, si on se rend compte qu'un enfant ou un ado est rentré dans une pratique pathologique des jeux vidéo, comment réagir? Est-ce que le couper net de tous ces jeux est une bonne solution? C'est risqué, non?
En fait, on peut considérer en gros qu'il va y avoir deux types hein, de joueurs qui vont être dans un jeu excessif ou pathologique. Hein. C'est un peu ce que je vois maintenant les jeunes que je reçois dans mon cabinet. En fait, la grande majorité des jeunes qu'on va voir, sont pas vraiment des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle le jeu pathologique. On va plus être dans un jeu excessif, ça veut dire que c'est des jeunes qui jouent beaucoup, mais en fait qui ont plus en fait une problématique avec la question du cadre, des limites en fait, donc le fait d'avoir des difficultés à dire stop à une activité qui leur plaît, à suivre les cadres imposés par les parents ou des choses comme ça. Et là en fait généralement on va plutôt travailler en famille avec les parents et les enfants en même temps pour essayer ensemble d'accompagner les parents sur comment pouvoir mettre des limites et les enfants sur comment pouvoir les accepter. Dans un cadre vraiment où on est plus sur ce qu'on appelle la pratique pathologique, ce que certains vont appeler addiction, là, c'est autre chose. On est vraiment sur du refuge pour fuir une problématique qui souvent...
Il y a une stratégie à mettre en place.
Voilà. C'est ça. Ouais, parce que là, souvent, on va être sur de la dépression, en fait. Et donc, on ne va pas travailler directement sur le jeu. Si vous retirez le jeu, vous retirez le refuge, en fait, finalement. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, l'objectif, ça va plutôt être de travailler sur ce qui se passe derrière cet arbre qui cache la forêt, qui est le jeu vidéo.
On peut peut-être rappeler 3-6-9-12, les règles?
Alors oui, les balises 3-6-9-12, elles ont été créées par Serge Tisseron en 2008. L'objectif, c'est de donner un peu des repères pour les parents, pour essayer d'accompagner un peu l'usage des écrans par les enfants. Alors, généralement, ce qu'on va proposer, c'est par exemple, avant 3 ans, jouer, parler, arrêter la télévision. Avant 6 ans, accompagner votre enfant, parler de ce qui se passe, limiter les écrans. Avant 9 ans, éviter tout ce qui est, par exemple, Internet en navigation solitaire. Il y a besoin aussi d'accompagnement. Et aussi, avant 12 ans, on évite tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Et donc, en fait, c'est plutôt des conseils qui vont être donnés. Et tout est disponible sur notre site. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations-là.
Et je crois que d'ailleurs, tous les pédiatres ont affiché le 3-6-9-12 dans leur salle d'attente qui fait un peu référence.
Oui, complètement. Oui.
Charlotte vous dit, mon fils n'est pas totalement accro, mais joue de plus en plus. Pour éviter que ça dérape, avez-vous des conseils concrets, attention, concrets, pour réguler la pratique du jeu vidéo à la maison?
Des conseils concrets, c'est déjà de considérer que, comme pour les écrans en général, donc pas que les jeux vidéo, c'est une activité comme une autre. Ça veut dire que, par exemple, quand votre ado il veut faire un foot avec ses copains, si on lui dit « tu reviens quand tu veux », il va revenir le lendemain matin parce qu'il aura passé la soirée avec son copain, il a dormi chez lui ou des choses comme ça. Le but, c'est que l'ado puisse savoir en fait, que c'est une activité qui a un début et une fin, donc qu'on puisse déjà en fait, cadrer ensemble. Plus le jeune est grand et plus on va lui laisser aussi, on va dire, un droit de parole aussi sur le temps qu'il voudrait avoir. Mm-hmm. Combien de temps t'aimerais de jeu? Alors, le cliché, c'est votre parent, votre enfant demande 20 heures, alors que vous, parents, vous aimeriez 20 minutes. Mais en vrai, le but, c'est d'essayer de discuter ensemble, trouver un accord commun pour essayer de comprendre un petit peu combien de temps le jeune voudrait et tout ça. Et réfléchir aussi à qu'est-ce qu'il y a comme activité après. Si par exemple, vous adulte, vous êtes tranquille sur la plage, en train de bronzer au soleil, et que quelqu'un vient vous voir en disant « Allez maintenant, tu viens, c'est le temps de répondre à tes mails ou de remplir ta fiche d'impôt, vous n'allez pas avoir envie de vous lever. » Si je vous dis par contre « Allez viens, on a fait les cocktails et on a sorti le barbecue, bah là ça va être
ça
plus simple. »
Oui,
voilà.
Puis il y a peut-être un peu anticipé. Moi je me dis toujours, c'est vrai que les couper dans leur jeu, c'est pas sympa à dire « Attention, dans un quart d'heure, enfin voilà, les prévenir. »
Mais du coup, il n'y a pas de durée de jeu qui devient nocive à partir de tant de jeux, ça va plus.
Non, c'est trop compliqué de sortir des durées de jeu comme ça parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la vie de famille, de la vie du jeune. Enfin, c'est relatif. Une durée qui va être trop importante, c'est une durée qui empêche de faire d'autres activités, en fait.
Il n'y a pas des jeux à privilégier plutôt que d'autres?
Non, les jeux qu'on va choisir, ça va plutôt être en fonction de ce qui nous plaît. Donc, il y a des jeunes qui préféreront jouer à des jeux de foot, il y en a qui préféreront jouer à des jeux de guerre ou des choses comme ça. C'est pas ce qui compte le plus.
Bon, moi, j'ai découvert Zelda Breath of the Wild il y a 6 mois. Ouais, mais je suis tombé dedans, du coup, je joue beaucoup trop. C'est pour ça que je ne bosse plus les émissions.
Bah oui, c'est ça. Mais je me disais, qu'est-ce qu'il a? Il maigrit, il a des cernes et tout.
Non, mais en vrai, il y a des. Bon, j'ai jamais été trop joué, mais ce jeu m'a fait un peu beaucoup trop jouer. Bon,
normal, bref, il est incroyable.
On est d'accord. Vous savez quand sort la suite d'ailleurs cette année?
Je sais pas.
C'est sur quelle console que vous jouez?
La Switch.
Il faut en citer deux autres,
sur la PlayStation ou la Xbox. David, quels peuvent être les impacts d'une addiction aux jeux vidéo non prise en charge chez un enfant ou chez un ado?
Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut bien comprendre que quand on parle vraiment de ce jeu pathologique, certains appellent l'addiction aux jeux vidéo, très souvent on est sur un symptôme secondaire majoritairement lié à une autre problématique qui peut être, alors dans la majorité des cas, on voit que c'est de la dépression, mais ça peut être d'autres cas, ça peut être par exemple un deuil qui n'est vraiment pas passé, un divorce, un harcèlement à l'école, on peut avoir aussi des fois des décompensations psychotiques. Et en fait, du coup, il faut bien comprendre que quand on dit... Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas en charge ce rapport aux jeux vidéo? C'est plutôt qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas en charge la dépression, quand on ne prend pas en charge ces points-là. Donc évidemment, oui, ça peut être très grave. Et c'est là aussi le rôle qu'ont les professionnels de santé, notamment psychologues et psychiatres, de pouvoir en fait accompagner le jeune pour essayer de trouver ce qu'il y a derrière, parce que c'est très important de ne pas laisser ça sans soin. Quoi.
La décompensation psychotique, c'est justement ce qu'on va mettre en place pour lutter contre la dépression, ou pour la cacher, ou pour l'enfuir?
Non, c'est plutôt, en fait, c'est vrai que c'est un terme un peu théorique, désolé, mais c'est vraiment quand il va y avoir, par exemple, l'apparition d'une structure psychotique, pour le dire un peu simplement, c'est par exemple quand on va avoir une apparition de schizophrénie ou des choses comme ça, arriver.
Qui reste rare, heureusement.
Oui. Déborah vous dit, ne connaissant rien aux jeux vidéo avec mon conjoint, nous souhaiterions accompagner la pratique de notre fille. Existe-t-il des ressources sérieuses qui permettent aux parents de se renseigner?
Déjà, ça fait un peu de pub personnelle, mais notre site internet 36912, on a quand même pas mal d'informations qui sont dessus, où vous pouvez trouver tout ce qui est affiches, flyers, on a aussi des vidéos explicatives ou des choses comme ça. J'aime beaucoup aussi le site de Pédagogeux, qui est un site proposé par l'UNAF, qui accompagne pas mal aussi les parents, je trouve, là-dedans. Et après, sinon, ce que je conseille souvent aux parents, c'est intéressez-vous aux pratiques de vos jeunes. Donc ça veut dire que déjà, le meilleur enseignant, ça va être votre jeune, c'est le meilleur moyen. C'est lui qui va être le mieux placé pour vous en parler. Vous avez des sites comme jeuxvideo.com, comme Gameblog ou des choses comme ça qui peuvent aussi raconter un peu de quoi parle le jeu, montrer des images. Vous pouvez aller sur YouTube, voir des gens en train de jouer, ce qu'on appelle le stream, et ça c'est très bien aussi parce que regarder du streaming, ça vous permet aussi de voir un peu des expériences d'autres joueurs. Enfin, il y a plein de choses possibles.
Et c'est vrai qu'on peut avoir une image négative si on ne regarde pas de ces streams en se disant, mais je ne vais pas regarder un mec qui joue aux jeux vidéo. En fait, ça peut être très drôle, ça peut être très instructif, et surtout, ça nous, en fonction de l'âge de nos enfants, ça nous donne les bonnes indications.
Quand vous regardez le nombre de personnes qui regardent des gens taper dans une balle, que ce soit pour le tennis ou pour le foot.
C'est des centaines de milliers, parfois, en direct. C'est...
Donc,
c'est...
en fait, le stream, ça, c'est un peu comme regarder aussi du sport à la télé, ou alors c'est un peu comme regarder notre émission préférée aussi à la télé, parce qu'on aime beaucoup tel ou tel présentateur. C'est juste une autre manière de consommer aussi les médias.
Et puis, il y a autre chose, c'est que maintenant, c'est participatif, avec Twitch, toutes ces plateformes qui font qu'ils jouent, mais ils participent, ils se parlent.
Y a-t-il des jeux plus addictifs que d'autres pour les enfants? Ma fille joue à Animal Crossing, mon fils à Fortnite, et il est clairement plus accro.
En fait, il y a, comment dire, y a, bah, on en parlait tout à l'heure, Animal Crossing, c'est quand même un jeu très calme, très, alors qu'il peut être long aussi, hein, mais Fortnite, on va être sur du compétitif, sur des parties quand même assez courtes, et donc on est quand même poussé plus facilement
à en refaire une dès que ça s'arrête.
C'est un peu la différence entre regarder un film, par exemple, et regarder une série Netflix ne s'arrête jamais parce qu'on vous passe directement à l'épisode suivant. Donc, c'est pas des, on va pas dire que ces jeux rendent plus accro, mais en tout cas, il y a vraiment des jeux qui vont utiliser des fois des techniques ou des méthodes d'économie de l'attention pour vous faire rester plus longtemps, qui vont utiliser pas mal de biais ou des choses comme ça. Donc, il faut aussi faire un petit peu attention. Et généralement, c'est les jeux qui vont être soit du côté compétitif, soit voilà, qui vont utiliser des techniques spécifiques pour vous faire rester. Notamment, on a ça sur les jeux mobiles, par exemple, aussi, ou autres. Donc, généralement, il faut aussi pouvoir accompagner le jeune sur le fait de savoir s'arrêter aussi, de ne pas faire ça toute la journée. Enfin, voilà, quoi, ça, c'est vraiment important.
Valérie vous demande s'il existe un profil type du joueur accro. Elle vous dit, j'ai trois garçons qui jouent beaucoup et je me demandais si ça touchait, par exemple, autant les garçons que les filles.
Non, c'est un peu compliqué de faire un profil type. Alors après, moi, je peux parler de mon expérience personnelle. C'est vrai que je reçois plus de garçons que de filles, mais j'ai quand même reçu des filles. Bah, tout à l'heure, on a eu un témoignage d'une jeune fille, voilà. Donc, et après, comme je le disais encore une fois, c'est un peu complexe parce que vu qu'on est plus sur quelque chose qui est un symptôme secondaire, en fait, souvent, le profil type va être très compliqué parce que ça va dépendre de la vie qu'a eu le jeune, des expériences qu'il a pu avoir, des expériences traumatiques ou autres. Et quand on est sur une problématique liée plutôt à un cadre, à des limites ou autres, ça va dépendre aussi de la relation familiale, de tout ce qui se passe avec les parents, de tout ce qui se passe dans la vie à l'école ou autre. Donc, ça serait trop simple que de faire un profil type, en fait.
Arnaud, vous en parlez, ça avec les parents?
Oui.
Et vous voyez des petits, déjà, qui jouent trop, petits.
Les parents ont compris. Le 0, 3 ans, enfin, bon, qui seront à apporter beaucoup dans notre pratique. Et c'est vrai que les gens ont compris qu'avant 3 ans, pas d'écran. Mais on fait un petit rappel des titres en disant, écran, c'est aussi la télé qui est allumée, le nourrisson qui cherche à tourner la tête. Prudence. Donc on a un rôle à jouer, et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont un peu perdus et désespérés. Et comme vous le disiez, il faut écouter son enfant. Il faut que son enfant le valorise en lui disant, ben, montre-moi ce que tu fais, ça m'intéresse, enseigne-moi. Et quand on met de l'interaction, on arrive à tempérer et à moduler. C'est ça l'objectif.
Il faut que ce soit une activité familiale, en fait.
Il faut que ça reste
le bon exemple, c'est Mario Kart, non?
Je pense. C'est génial.
On joue à plusieurs, on joue à quatre. Je crois que vous jouez aussi chez vous, non?
Mario Kart, oui, plutôt avec mon mari, mais c'est Animal Crossing, parce que comme mon fils ne sait pas lire, il fallait que je lui lise les trucs.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est le bon exemple de on joue tous ensemble et c'est un moment partagé. Ouais.
C'est génial.
Après, vous n'êtes pas obligé non plus. Enfin, c'est génial si vous jouez ensemble, mais vous pouvez aussi, par exemple, être assis à côté de votre jeune qui joue et discuter avec lui, raconte-moi.
Moi, ça je fais beaucoup. Sur FIFA, par exemple. Je fais semblant de m'intéresser, mais eux, ils sont tellement contents.
Mais voilà. Mais s'il est d'accord.
S'il est d'accord.
Il ne faut pas être intrusif non plus. Il y a aussi sa part de territoire.
Oui, c'est ça. Ça dépend de l'âge.
On n'a pas forcément envie de partager avec ses parents.
Voilà, merci beaucoup à Olivier Duris, le psychologue, d'être venu nous voir. Et un grand merci à Pauline. Merci à toutes, merci à tous. C'est la fin de cet épisode du podcast Maternelle. Je vous rappelle demain donc la mise en ligne d'un épisode inédit du podcast à ne pas manquer. Sur la santé psychologique de nos enfants et les conséquences de la crise du Covid sur cette santé psy de nos enfants. Je serai avec le professeur Duverger et on entendra bien sûr plusieurs témoignages de parents à ce sujet. Ciao tout le monde !